filles, 6h à Paris, 5h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal. Bonjour Jeanne Bartoli. Et
bonjour Julien, bonjour à tous.
Dans ce journal, le raccordement des foyers de Mayotte à l'eau aujourd'hui.
C'est la promesse d'Emmanuel Macron qui a quitté Mayotte hier, direction Djibouti et la base militaire française où il a partagé un repas de Noël avec les 1500 soldats français déployés sur place. Reportage de notre envoyé spécial. La terreur hier soir au marché de Noël de Magdebourg, à l'ouest de Berlin en Allemagne, une voiture a foncé. C'est dans la foule, tuant deux personnes, dont un enfant. Il y a de nombreux blessés. Les motivations de l'assaillant restent floues ce matin. Dans ce journal aussi, le verdict au procès de l'assassinat de Samuel Paty, à l'origine de la campagne de haine sur les réseaux sociaux. Brahim Chnina et Abdelhakim Sefrioui sont condamnés à 13 et 15 ans de prison. Aux États-Unis, la paralysie budgétaire qui devrait être évitée de peu. Et puis, il y a 36 ans, une bombe explosait à bord du vol Panam 103 entre Londres et New York, au-dessus du village écossais de Lockerbie. Les familles des victimes réclament toujours la déclassification de tous les documents liés à l'attentat.
L'urgence toujours à Mayotte.
Une semaine tout juste après le passage du cyclone Chido, Emmanuel Macron a promis hier le raccordement des foyers à l'eau ce samedi, au moins de façon partielle. Déclaration après son départ de Mayotte à l'issue de plus de 24 heures sur place où le président français a pu mesurer l'épuisement et la colère de la population. Le bilan encore très provisoire du cyclone s'élève à 35 morts, 2500 blessés. Emmanuel Macron qui a rejoint hier la base militaire de Djibouti, où il a partagé le repas de Noël avec les 1500 soldats français présents dans la plus importante base militaire française en Afrique, base que le chef de l'État a dit vouloir faire évoluer à Djibouti. Pierre Firsion.
Vous avez toujours été une emprise particulière, a lancé Emmanuel Macron aux 1500 soldats français présents sur la base aérienne 188. Djibouti est effectivement une base à part, beaucoup plus tournée vers la mer Rouge, l'océan Indien et l'Indo-Pacifique qu'elle ne l'est vers l'Afrique. Mais ce choix stratégique est en cours d'évolution, a annoncé vendredi le président français.
C'est aussi, et ce sera d'ailleurs à réinventer, un point de projection pour certaines de nos missions africaines. Et donc je veux ici marquer la différence entre ce que chaque jour vous bâtissez depuis cette base et ce qui est fait la restructuration de notre approche sur le continent africain.
Une restructuration forcée car la France est contrainte de quitter le Tchad et le Sénégal après avoir dû évacuer le Sahel.
Notre rôle change en Afrique, mais c'est ce que nous avons voulu. Parce que le monde change en Afrique, parce que les opinions publiques changent, parce que les gouvernements changent. Et parce que nous avons décidé de manière souveraine, en février 2023, après plusieurs années de changements progressifs, eh bien de rebâtir un partenariat qui repose sur des partenaires respectés.
Fini donc.
La logique qui était la nôtre dans trop de pays, de bases installées, pléthoriques, permanentes, qui ne conduisait plus à une relation partenariale mature parce qu'elle ne reposait plus sur l'expression d'un besoin clair, identifié.
Au Gabon et en Côte d'Ivoire, où subsistent encore des bases françaises, les effectifs sont en diminution et ces bases pourraient être à l'avenir partagées avec les armées locales. Pierre Firsion, Djibouti, RFI.
À la une également en Allemagne, beaucoup de questions autour du profil de l'homme qui a foncé hier avec sa voiture dans la foule au marché de Noël de Magdebourg.
Le bilan est lourd de morts, dont un enfant, plus de 60 blessés, une quinzaine le sont grièvement. L'homme est un médecin saoudien âgé de 50 ans. Il a zigzagué dans la foule où se trouvaient de nombreuses familles. La ministre de l'Intérieur du Länder de Saxe-Anhalt a donné hier des précisions sur son parcours. Écoutez.
L'auteur a été arrêté. Il s'agit d'un Saoudien de 50 ans qui est entré pour la première fois en Allemagne en 2006. Il disposait d'un permis d'établissement et donc d'un permis de séjour permanent. Il a agi seul. Il n'y a aucune information sur d'autres auteurs. Tout le reste est sujet à des investigations plus approfondies.
Tamara Tsichang, ministre régional de l'Intérieur du Länder de Saxe-Anhalt. Et alors que les motivations de l'assaillant reste flou. L'extrême droite s'est déjà saisie de cette affaire à l'approche des élections législatives allemandes du 23 février prochain, où la question de l'immigration jouera notamment un rôle important.
Dans l'actualité aussi, la composition du gouvernement devrait être dévoilée dans les prochains jours en France.
Avec une question, la droite va-t-elle en être ? Les responsables du parti Les Républicains laissent planer le doute sur leurs intentions. Ils ont demandé un nouvel échange hier avec François Bayrou. Les Républicains souhaitent en particulier conserver Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Dans l'entourage du très conservateur ministre, on affirme que toutes les conditions sont réunies pour son maintien. La France, où après 7 semaines d'audience, la Cour d'assises spéciale de Paris a tranché dans le procès de l'assassinat de Samuel Paty. Les 8 accusés sont reconnus coupables dans l'assassinat de ce professeur d'histoire-géographie décapité par un jeune islamiste radicalisé. C'était en octobre 2020. Lou Ekal, les condamnations les plus attendues étaient celles de Brahim Chnina et d'Abdelhakim Sefrioui.
13 ans de prison pour Brahim Chnina, 15 ans pour Abdelhakim Sefrioui. Le père de l'adolescente, dont le mensonge a participé au drame, et le prédicateur islamiste sont tous deux condamnés pour association de malfaiteurs terroristes. Cette accusation était pourtant très contestée par leurs avocats. Abdelhakim Sefrioui n'avait eu aucun lien, direct ou indirect, avec l'assassin de Samuel Paty. Malgré cela et malgré les réquisitions plus faibles du parquet, la cour a tranché et opté pour cette condamnation. Si l'attention s'est largement portée sur eux pendant ce procès, ce sont deux jeunes qui encouraient la peine la plus lourde, la perpétuité pour complicité d'assassinat terroriste. Naïm Boudaoud et Azim Espirkanov, les deux amis de l'assassin de Samuel Paty, écopent finalement chacun de 16 ans de prison. Des peines là aussi au-delà des réquisitions. Le parquet avait en effet abandonné cette qualification de complicité en expliquant que les deux accusés n'avaient pas conscience du projet terroriste de leur ami.
Et les précisions de Lou Ekal.
RFI minuit 6 à Washington, le spectre d'une paralysie budgétaire s'éloigne aux États-Unis.
Le fameux shutdown, un texte disposant d'un ample soutien d'élus démocrates mais aussi républicains, a été adopté cette nuit. Il faut qu'il le soit désormais au Sénat avant demain matin, faute de quoi les États-Unis se retrouveront en situation de shutdown. Le texte adopté il y a quelques heures assurerait le financement de l'État fédéral jusqu'à la mi-mars. La Maison-Blanche a affirmé que Joe Biden soutenait également ce texte, même s'il n'inclut pas tout ce que nous voulions. Selon la Maison-Blanche.
Joe Biden qui s'apprête justement à quitter la Maison-Blanche.
Dans tout juste un mois, Donald Trump prendra ses fonctions. Les relations s'annoncent déjà compliquées pour les alliés traditionnels des États-Unis. Le futur président américain a d'ailleurs donné le ton sur les futures relations commerciales avec les Européens via un message sur son réseau social dans lequel il menace l'UE de taxes douanières si elle n'achète pas du pétrole et du gaz américain. Précision avec Nathanaël Vitran.
J'ai dit à l'Union européenne qu'elle devait compenser le déficit commercial abyssal des États-Unis en achetant notre pétrole et notre gaz en grande quantité, écrit Trump, puis en lettres capitales, sans quoi, tarifs douaniers. Donald Trump semble tout aussi décidé que lors de son premier mandat à pratiquer une diplomatie par réseau social interposé. Mais de quoi parle-t-il exactement? D'abord, c'est vrai, les États-Unis accusent et depuis longtemps un important déficit commercial vis-à-vis de l'UE. En 2022, il dépassait les 130 milliards de dollars. Mais depuis, il y a eu la guerre en Ukraine. Et les États-Unis ont largement remplacé la Russie pour fournir les Européens en gaz et en pétrole. D'autant que les investissements dans la fracturation hydraulique ont fait des États-Unis le premier producteur d'hydrocarbures au monde devant l'Arabie Saoudite. En valeur, les Européens importent plus de gaz et de pétrole américain que n'importe quel autre produit. En conséquence, depuis 2 ans, les importations européennes ont augmenté beaucoup plus vite que les exportations. Visiblement pas assez vite pour Donald Trump.
Nathanaël Vitran, Donald Trump qui s'est entretenu hier soir avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Ils ont convenu par téléphone que la guerre russe contre l'Ukraine durait depuis maintenant trop longtemps. C'est ce qu'affirme le gouvernement allemand dans un communiqué. Il est essentiel de s'engager le plus rapidement possible sur la voie d'une paix juste, équitable et durable, ont également estimé les deux hommes, toujours selon le gouvernement allemand. Sur le terrain, Kiev annonce de son côté avoir récupéré plus de 500 corps de soldats tombés au front lors d'un échange avec la Russie. Le commissaire ukrainien aux droits de l'homme, Dmytro Loubinets, annonce qu'il a rencontré son homologue russe en Biélorussie. Les précisions d'Emmanuel Chaz.
De bonnes nouvelles juste avant Noël, c'est ainsi que Dmytro Loubinets a annoncé les résultats de sa dernière interaction avec son homologue russe. Comme cela avait déjà été le cas il y a quelques semaines, un nouvel échange de corps de soldats tombés sur la ligne de front a eu lieu. 503 corps ont ainsi été rendus à l'Ukraine, la plupart étant des soldats tombés dans la région de Donetsk. Après identification, leurs dépouilles seront remises à leurs familles. Autre annonce de Kiev, 1500 colis et lettres destinées aux prisonniers de guerre ont été remises à la Russie pour les captifs ukrainiens. sachant que ce droit leur avait été jusqu'à présent refusé. Kiev ne précise pas comment l'Ukraine pourrait obtenir des preuves que ces colis parviennent bien à destination, alors que des milliers de prisonniers de guerre ukrainiens sont détenus dans des conditions contraires au droit international, puisqu'ils sont affamés, torturés et privés de contact avec leurs proches au cours de leur captivité, comme l'attestent ceux d'entre eux qui réchappent au système carcéral russe. Emmanuel Chasse, Kiev, RFI.
Un sommet à présent dans une station de ski en Laponie pour parler immigration. Ce sera aujourd'hui. 4 dirigeants européens se retrouvent en Finlande. Les dirigeants finlandais, grecs, suédois et italiens. 4 gouvernements unis par une vision des politiques migratoires communautaires. Vision que décrit pour nous Virginie Guiraudon, directrice de recherche au CNRS et spécialiste des politiques européennes d'immigration.
Les pays qui se réunissent sont sur la même ligne politique en ce qui concerne les migrations et surtout les demandes d'asile, avec dans chaque cas d'ailleurs des partis de droite radicale qui sont très importantes dans ces gouvernements. Ils sont en train d'explorer une politique de où en fait les demandeurs d'asile n'arriveraient pas, ni en Finlande, ni en Suède, ni en Italie, ni en Grèce, mais sur le modèle de l'Albanie ou des discussions qu'il y a eu au Royaume-Uni autour du Rwanda, que les personnes soient dans des centres de tri en dehors de l'Europe ou en dehors de l'Union européenne plus exactement. Cette idée qui est en train d'être plus ou moins mise en œuvre en Italie, hein, même si ça pose énormément de problèmes d'un point de vue des droits de l'homme, du droit constitutionnel, et intéresse aussi les pays du nord de l'Europe.
Virginie Guiraudon, directrice de recherche au CNRS, au micro de Nicolas Roquin.
C'était il y a 36 ans, une bombe explosée à bord du vol Panam 103 entre Londres et New York.
Au-dessus du village écossais de Lockerbie, 270 personnes au total vont trouver la mort, passagers, membres d'équipage et habitants, dans ce qui demeure l'acte terroriste le plus meurtrier de l'histoire du Royaume-Uni. La Libye de Muammar Kadhafi avait fini par accepter sa responsabilité. Emeline Vin, le père de l'une des victimes, continue d'espérer aujourd'hui des réponses.
36 ans après le décès de sa fille Flora, Jim Sawyer réclame la déclassification de tous les documents liés à l'attentat de Lockerbie. Beaucoup d'informations n'ont pas été rendues publiques et le gouvernement n'a plus aucune raison de les garder secrètes, estime le médecin à la retraite qui a toujours agi en porte-parole des familles des 270 victimes du vol Panam 103. Bien qu'un officier du renseignement libyen ait été condamné pour l'attentat et que l'ancien président Muammar Kadhafi a accepté la responsabilité de son pays, Jim Sawyer reste persuadé que c'est une faction syrienne du Front populaire de libération de la Palestine qui a commandité l'attentat. Les gouvernements britanniques successifs ont toujours refusé de lancer une enquête publique. En 2020, même le ministre de la Justice estimait impossible la déclassification au nom de la sécurité nationale et de la préservation de la diplomatie britannique. Au-delà de ce 36e anniversaire, Jim Sawyer compte surtout sur la diffusion début janvier d'une série inspirée de son combat à la télévision britannique pour rallier le soutien du grand public à sa cause et contraindre les autorités à lever le secret sur les archives. Emeline Van Londres, RFI.
Enfin du sport pour terminer ce journal. Arts martiaux mixtes, Saladin Parnasse a déroulé hier soir face à Wilson Varela et conserve sa ceinture. Jamais inquiété au cours du combat, il a conservé sa ceinture des moins de 70 kilos du KSW en battant Wilson Varela par arrêt de l'arbitre au second round. C'était un choc qui avait lieu à la Défense Arena. Et puis un mot de boxe, la revanche entre les deux meilleurs poids lourds de la planète va se tenir aujourd'hui en Arabie Saoudite. Tyson Fury retrouve Alexander Usyk 7 mois après la victoire de l'Ukrainien. Un combat à 190 millions de dollars, l'un des plus importants de ces dernières années, qui va permettre de désigner le champion du monde dans 3 des 4 grandes fédérations de boxe.
Merci Jeanne Bartoli, c'était le journal. À tout à l'heure. Samedi 21 décembre 2024, bienvenue à vous, RFI Matin, 3 heures d'information. Et l'Allemagne à la une, la terreur hier soir et le flou ce matin après cette attaque à la voiture Bélier dans un marché de Noël à Magdebourg dans l'est du pays. 2 morts dont un enfant et plus de 60 blessés dont 15 dans un état grave. Une situation encore très confuse ce matin alors que les motivations de l'assaillant restent très incertaines. On suit l'évolution des faits de près à Berlin avec notre correspondant Pascal Thibault qu'on retrouve en direct direct à 6h, temps universel. L'actualité aujourd'hui également à Mayotte, bientôt une semaine après l'ouragan Chido qui a dévasté l'archipel. Emmanuel Macron promet pour ce samedi le raccordement des foyers à l'eau. On appelle notre envoyé spécial sur place tout à l'heure. Et puis la Syrie, toujours à la une, bientôt deux semaines après la chute de Bachar al-Assad. Après 13 ans de guerre qui ont tué plus de 500 000 personnes, dont 181 journalistes, selon Reporters sans frontières. On en parle dans une heure dans Menace sur l'information. Et puis notre invitée, l'actrice, réalisatrice et scénariste syrienne Ala Rajab, sera dans ce studio à 6h20, temps universel. Et pour commencer justement, ce sont des combats qui se poursuivent dans le nord-est de la Syrie, bientôt deux semaines après la chute de Bachar al-Assad et la prise du pouvoir par les rebelles islamistes du HTS. Dans le nord-est syrien, les forces pro-turques ont lancé une offensive contre les zones contrôlées par les forces kurdes et nombre de civils fuyant les combats se sont réfugiés dans la ville de Tabga, où le stade s'est transformé en camp de déplacés. Elles sont toutes parties de cantons au nord d'Alep, mais en arrivant, des milliers de personnes manquaient à l'appel. Elles n'ont pas été retrouvées depuis. Notre reportage international en Syrie avec notre envoyé spécial Marie-Charlotte Roupy.
Tout au bout du terrain battu par les vents, où s'est installé le camp de déplacés de Tabqa, la tente de Shinaz est désespérément vide. Quand ils ont fui le canton de Shahba, au nord d'Alep, avec son mari et ses enfants, ils étaient 5. À l'arrivée, ses deux fils avaient disparu.
Nous avons fui avec le convoi et quand on s'est arrêté pour nous reposer, on a vu que mon fils manquait. Il dormait sur le toit de la voiture, sur les matelas, et il est apparemment tombé et s'est perdu. Mon second fils, lui, nous suivait à moto et il a disparu. On ne sait pas s'il a été capturé ou s'il a juste disparu. Il avait 20 ans.
Son mari a fait le tour de tous les hôpitaux d'Alep sans résultat. Le cas de Shinaz n'est pas isolé. Dans le bâtiment qui sert de salle de repos, Asman est plongé dans ses pensées. Son fils Mohamed, 18 ans, travaillait dans une clinique militaire lorsque les forces pro-turques ont attaqué.
Au moment où nous avons fui, nous n'avons pas pu attendre parce qu'on nous disait qu'il tuait des gens. J'ai essayé d'appeler Mohamed pour qu'il parte avec nous, mais il n'y avait plus de réseau. Je pensais qu'il avait peut-être fui avec son commandant ou avec le personnel médical.
Une larme coule sur sa joue. La veille, elle a eu des nouvelles par l'un des collègues de son fils qui était avec lui ce jour-là.
À l'issue de tirs croisés, cet homme a été blessé. Mon fils a été arrêté. Il n'a pas été blessé, mais il a été attrapé. J'ai demandé où il a été emmené. Il m'a répondu, je ne sais pas.
À l'extérieur, un jeune homme s'avance. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrerait son oncle entre deux hommes armés.
Ils l'ont forcé à porter l'uniforme alors qu'il était en vêtements civils. Et ils l'ont filmé. Il a été torturé et battu pour dire qu'il était des forces kurdes, pour qu'il puisse le livrer au service de renseignement turc.
Ces témoignages difficiles à vérifier se répète pourtant dans tout le nord-est syrien. Ibrahim Cher, directeur du comité pour les droits humains de Shehba et Afrin, aide à collecter des informations.
Depuis que nous sommes arrivés, nous avons reçu des documents rassemblés par les gens et nous avons enregistré tous les noms. Nous sommes assez certains que plus de 350 personnes ont été kidnappées, mais au total, il en manque plus de 3000.
Les familles attendent des réponses et craignent le pire, mais parfois le miracle a lieu. Rachid avait perdu sa famille sur la route et vivait à Raqqa. Il l'a finalement retrouvé ici, la veille.
Mon frère Mohamed, quand je suis arrivé à Tabqa, j'ai pu le retrouver dans sa tente, avec ma sœur, mon père et ma mère. Grâce à Dieu, nous nous sommes retrouvés.
Marie-Charlotte Roupy, Camille Chly, RFI.
Notre reportage international en Syrie, à retrouver sur RFI.fr. C'est l'un de vos rendez-vous du samedi sur RFI, la une de Jeune Afrique avec nos confrères du magazine. On parle aujourd'hui de la Côte d'Ivoire avec François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique. Il est au téléphone de Catherine Potet.
À la une de Jeune Afrique, la perspective de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. C'est encore loin, octobre 2025, mais ce grand rendez-vous électoral est d'ores et déjà d'actualité car de nombreux inconnus aiguisent la curiosité. Parmi ces inconnus, tout d'abord l'éventuelle candidature d'Alassane Ouattara pour un quatrième mandat. Bonjour François Soudan.
Bonjour Catherine.
Bien difficile pour le moment de savoir si le président sortant se présentera
ou non ?
Cette question, vous l'imaginez, tous les Ivoiriens se la posent, mais la réponse risque de se faire encore attendre quelques semaines, voire quelques mois, tant Alassane Ouattara entend rester le maître du temps, le maître des horloges, hein, d'autant que selon ses proches, interrogés par Florence Richard dans le cadre de son article, sa décision ne serait pas encore tout à fait prise. Alors, pour son parti, le RHDP, qui multiplie depuis des mois les appels, les meetings en faveur de sa candidature, ça ne doit faire aucun doute, mais Ouattara se trouve face à une sorte de dilemme, Catherine Hilla. 82 ans, le souhait qu'il avait émis en 2020 de céder la place à une autre génération, projet auquel il avait dû renoncer suite au décès de son successeur adoubé, Gon Coulibaly, ce souhait tient toujours en principe, sauf que cette fois-ci, aucun dauphin potentiel ne s'impose sans contestation, qu'il s'agisse du vice-président Méliès Conné, de l'ancien Premier ministre Hachi, de l'actuel titulaire du poste Begré Mambé, voire de son frère cadet et ministre de la Défense Tene Birahima Ouattara. Alors d'un côté, il y a le souci de ne pas faire le mandat de trop, de l'autre celui de ne pas faire perdre son camp et de maintenir la stabilité de la deuxième économie d'Afrique de l'Ouest dans un contexte régional, politique, sécuritaire tendu. Ouattara va donc devoir trancher, qu'il le fasse in fine dans le sens de la continuité. Personnellement, Catherine, cela ne m'étonnerait guère.
Voilà pour l'éventuelle candidature d'Alassane Ouattara. L'autre point d'interrogation concerne le PDCI et son nouveau patron, Tidjane Thiam. A-t-il vraiment réussi à s'imposer sur la scène politique ivoirienne ?
Alors disons que celui qui, il y a un an, était encore très peu connu de la majorité des Ivoiriens pour avoir vécu plus de 20 ans à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, il y travaille avec sérieux, avec assiduité, à la tête du premier parti d'opposition depuis décembre dernier. Tidjane Thiam tente de mobiliser la base, il a restructuré la direction du PDCI, il multiplie les déplacements à l'intérieur du pays, il fait tout pour être désigné par sa formation candidat à la présidentielle. Deux obstacles, deux problèmes restent encore pour lui à résoudre. Le premier est purement formel, il va lui falloir renoncer d'ici au mois d'avril à sa nationalité française. Et le second est d'ordre politique, hein. Il est posé par l'existence d'au moins une autre candidature issue du PDCI, celle de l'ancien ministre du Commerce Jean-Louis Billon, lequel s'appuie sur les frustrations engendrées chez certains classiques du parti par l'ascension météoritique de Tidjane Thiam. Jusqu'ici, les médiations entre ces deux personnalités n'ont pas fonctionné, Catherine.
Enfin, François Soudan, il y a la gauche, plutôt mal en point. Sa figure de proue est l'ancien président Laurent Gbagbo. Mais une question s'impose, parviendra-t-elle à se retrouver autour d'un candidat commun ?
C'est là toute la question, un candidat unique étant la condition sine qua non pour cette famille politique si elle veut avoir une chance d'exister au second tour de la présidentielle. Tout le monde est donc d'accord sur le principe, mais cette famille, elle n'est pas unie. Il y a encore beaucoup de ressentiments, de brouilles, de querelles d'ego. Pour l'instant, trois candidats ont été investis par leurs partis respectifs. Pascal Affine-Guessant, le nouveau patron du FPI, Simone Eyvé Gbagbo, l'ex-épouse de Laurent Gbagbo et Laurent Gbagbo lui-même, plus un quatrième, Charles Blégoudé, qui a fait connaître son intention de s'y présenter. Cela étant dit, pour ces deux derniers, Gbagbo et Blégoudé, il y a encore loin de la coupe aux lèvres, puisque condamné et non amnistié, il demeure pour l'instant inéligible, tout comme d'ailleurs Guillaume Soro, qui lui vit en exil, Catherine.
Merci François Soudan. Cet article sur la Côte d'Ivoire est à retrouver sur jeuneafrique.com.
Et tout à l'heure, l'invité des RFI Matin, le grand invité Afrique sera Jean-Louis Billon, 6h23 à Paris. Jusqu'où va la science ? Bonjour Caroline Lachowski.
Bonjour Julien.
Gros plan sur l'une des créatures les plus robustes du monde animal aujourd'hui. Le microscopique tardigrade est une star des laboratoires et pour cause, il est quasiment indestructible.
Vous n'en avez probablement jamais vu car il est presque invisible à l'œil nu. Tout petit mais super costaud, il ne paye pas de mine. Également appelé ourson d'eau ou porcelet des mousses, selon les milieux dans lesquels il évolue, le tardigrade est d'aspect trapu, boudiné avec une sorte de groin. Les scientifiques qui l'étudient dans le monde entier en ont dénombré à ce jour plus de 1300 espèces différentes, principalement terrestres, mais aussi marines et d'eau douce. Et s'il fascine autant les chercheurs, c'est parce qu'il résiste à tout le bougre, aux températures les plus extrêmes, du zéro absolu jusqu'à 150 degrés, mais aussi aux radiations, aux métaux lourds et aux molécules chimiques. Indestructible, le tardigrade, quasiment. Les chercheurs ont eu beau leur infliger les pires sévices, les faire bouillir, les congeler, les empoisonner ou les écraser, les tardigrades ont même survécu à plusieurs voyages dans l'espace, notamment à bord de la Station Spatiale Internationale, sans combinaison et sans aucun dommage.
Comment expliquer une telle robustesse ? Les tardigrades survivent à tout ?
plus fort que ça, Julien, ils sont capables de ressusciter. Ou plus exactement, de mettre leur existence entre parenthèses, sur pause, pour revenir à la vie quand les conditions leur sont favorables. Le secret de leur robustesse réside dans un phénomène qu'on appelle la cryptobiose. En milieu hostile, ces increvables créatures se déshydratent. Elles expulsent toute l'eau de leur minuscule corps et se dessèchent jusqu'à devenir totalement rabougries et inertes. Elles entrent alors dans un état de dormance qui peut durer plusieurs décennies. Une simple goutte d'eau, un brin d'humidité, des années plus tard, suffit à les ramener à la vie. Des biologistes américains ont voulu comprendre comment les tardigrades parvenaient à ressusciter. Ils ont découvert qu'au cours de ce processus, les tardigrades produisaient une protéine qui, transformée en gel, préserve leurs cellules des effets du dessèchement. De quoi inspirer la recherche dans de nombreux domaines, et ce n'est pas tout. Des biologistes japonais ont découvert que même sans se mettre en dormance, les tardigrades pouvaient encaisser des radiations 1000 fois supérieures à la dose létale mortelle pour les humains. Comment ? En déployant une sorte de bouclier qui protège leur ADN. Voilà qui pourrait être bien utile aux humains dans l'espace. C'est pourquoi une étude est toujours en cours sur la cohorte de tardigrades envoyée en 2021 avec Thomas Pesquet dans la Station Spatiale Internationale. Pour tout savoir sur les super pouvoirs des minuscules tardigrades, je vous renvoie sur l'excellent documentaire scientifique et humoristique de Raphaël Ittier sur Arte. Tardigrade, l'animal indestructible, à voir sans modération jusqu'au 17 janvier sur la plateforme arte.tv.
On n'y manquera pas. Merci Caroline Lachowski. Bienvenue dans le game. Bonjour Jennifer Dufaux.
Bonjour Julien.
Vous nous proposez aujourd'hui de faire le bilan jeu vidéo de l'année.
Et quelle année pour le jeu vidéo ! À l'instar du désormais incontournable Spotify Wrapped, vous connaissez ce récapitulatif annuel qui vous présente des chiffres qui reviennent sur votre année musicale ? Bah, je vous propose de faire ça aussi, mais dans le format jeu vidéo pour Bienvenue dans le game. Commençons par les chiffres de l'industrie du jeu vidéo et leur évolution. 187,7 milliards de dollars. Ce chiffre représente le montant des revenus du jeu vidéo dans le monde en 2024, soit une croissance de 2,1% comparée à 2023. Les revenus des jeux sur PC et consoles représentent 51% du marché mondial, d'après une étude des analystes du cabinet Newzoo qui date de juillet 2024. Les 49% restants proviennent, eux, des jeux mobiles, qui prennent cette proportion certainement car ils restent plus accessibles pour la population mondiale.
Parlons maintenant des licenciements dans le secteur.
14 600, c'est le nombre estimé de personnes qui ont été licenciées en 2024 dans le secteur du jeu vidéo, d'après le site Obsidian. En 2023, un peu plus de 10 000 personnes avaient perdu leur emploi. Alors tout ceci est très paradoxal puisqu'on a vu précédemment que l'industrie se porte bien et continue de croître. Ces licenciements s'expliqueraient donc par les coûts croissants de la production de jeux vidéo, ainsi que la difficulté à attirer de nouveaux joueurs, d'après Phil Spencer, président de Microsoft Gaming. D'ailleurs, du côté de Microsoft Gaming, 650 personnes ont perdu leur emploi. Et pourtant, même les studios qui font de bons jeux et qui se vendent bien ferment, ou alors licencient, à l'instar du studio derrière le jeu Hi-Fi Rush. Difficile de trouver les chiffres exacts du jeu le plus vendu de 2024, mais plusieurs candidats sortent du lot. Avec plus de 300 millions de ventes cumulées depuis sa sortie, GTA reste l'un des jeux les plus populaires au monde, aux côtés de Pokémon, Tetris, Call of Duty et Minecraft.
Et Jennifer, qu'en est-il des jeux qui comptent le plus de joueurs actifs en 2024 ?
Du côté des jeux qui comptent le plus de joueurs actifs, eh bien c'est Minecraft qui reste en tête, alors même qu'il date de 2011. Le jeu compte 178 millions de joueurs mensuels, selon le site ActivePlayer.io, ainsi que Fortnite, qui comptabilise plus de 247 millions de joueurs par mois, qui dépensent jusqu'à 41 millions d'euros par mois. Eh ben... Voilà quelques chiffres qui résument l'année de l'industrie du jeu vidéo en 2024. D'ailleurs, si vous jouez, il y a de fortes chances que les éditeurs vous proposent votre propre récapitulatif de joueurs, à l'instar de Xbox ou encore PlayStation, mais également la plateforme de streaming Twitch. De mon côté, j'attends impatiemment de voir sur quel jeu j'ai passé le plus de temps cette année. On compte sur vous pour nous partager vos chiffres de l'année sur les réseaux sociaux de RFI.
Merci Jennifer Dufaux. Et sur RFI, bientôt 5h30 en temps universel, le journal dans moins d'une minute. À tout de suite.
RFI à Paris, 89 FM. Franceville, 104 FM.
BPM.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Amateur de hip-hop, de poésie et de second degré, cette émission est faite pour vous. Le rappeur français Hippo Kung Fu est dans BPM La Rencontre.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Non mais je comprends rien à la carte là.
Tous les dimanches à 14h10 TU sur RFI.
Attention,